C'était Roger Frey qui était ministre de l'Intérieur. C'était donc Roger Frey qui pilotait ce dossier réconciliation. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils voulaient, c'était acheter la paix en France. Donc, nous n'avons rien fait sauter. Et c'est ainsi que les choses se sont faites. Certains sont rentrés. Ça a été jusqu'à l'amnistie finale. C'est ainsi que j'ai connu Michel Barouin. Et que je suis rentré ensuite à la GMF. J'en suis devenu après le directeur régional de tout le Sud-Est. Puis j'ai quitté la GMF et ma retraite. Et voilà.
À l'Assemblée nationale, débat cet après-midi sur le projet de loi sur l'amnistie.
Il s'agit bien sûr d'une amnistie ayant rapport aux actes commis en liaison avec les événements d'Algérie.
Paris Inter, 28 novembre 1967.
Au Palais Bourbon, Jacques Gara.
Ce débat que nous avons suivi avec Henri Pajot est un des plus passionnés de cette session, en effet. C'est celui, certainement, qui contient le plus d'émotions. Les 483 députés sont penchés sur le sort de 259 hommes, les 259 condamnés et inculpés qui sont encore hors de l'amnistie déjà exercée par les deux précédentes lois de 1964 et 1966 au bénéfice de près de 3400 personnes. C'est une des dernières pages des suites de l'affaire d'Algérie qu'il s'agit de tourner, une de ses séquelles les plus douloureuses.
Il n'y a pas cinq mois, rappelait tout à l'heure le ministre de la Justice, M. Louis Jox, il n'y a pas cinq mois que le gouvernement annonçait la préparation de cette troisième loi d'amnistie. Le gouvernement, ajoute le garde des Sceaux, a estimé nécessaire d'aller plus loin et de régler une fois pour toutes un problème douloureux.
L'amnistie n'est pas une réhabilitation, ni une revanche.
Louis Jox.
Pas plus qu'elle n'est une critique contre ceux qui, au nom de la nation, eurent la lourde tâche de juger et de punir. L'amnistie n'est pas un acte de justice, elle est un acte d'apaisement. La subversion disparue, l'autorité de l'État pleinement rétablie. La République accepte d'oublier les fautes, d'effacer les condamnations.
Et on devait voir plus tard dans la discussion que c'est sur cette double exception, pour les uns excessive, pour les autres trop rigoureuse, que l'Assemblée se divise, parfois même au sein des groupes. Monsieur Louis Jox, en tout cas, en a appelé à la générosité des députés. D'ailleurs, ce mot de générosité est celui que l'on a peut-être entendu le plus souvent cet après-midi au Palais Bourbon.
Une loi d'amnistie doit être large, ouverte à tous. Le Parlement, j'en suis sûr, le comprendra. Elle ne peut être aveugle.
Et c'est ainsi que ces terroristes ont pu retrouver une vie tranquille, bien pépère, de la réconciliation à la réhabilitation. Les liaisons douteuses, on le disait, ont une histoire. Alain Russio, historien de la décolonisation.
Tous ces anciens de l'OS sont tous passés à peu près par la case prison, enfin, sauf ceux qui sont partis en exil. Et puis ont commencé les grâces amnestiantes du général de Gaulle jusqu'à l'amnistie générale de 68. Qu'est-ce qui a motivé ces amnesties et puis cette amnestie générale?
Je pense que dans l'esprit des amnistieurs, si je peux employer ce néologisme, dans l'esprit des gens qui ont été à l'initiative de cela, c'était de dire qu'il fallait refermer les plaies de la guerre d'Algérie. D'autant plus que ce qui est bien prévu dans les lois d'amnistie, c'est justement de passer l'éponge sur l'ensemble des faits qui auraient pu être reprochés à certains. Et parmi ces certains, il n'y avait pas que des gens de l'OAS. Il y avait des officiers de l'armée française, par exemple. Le simple fait, par exemple, que Ossarès ait été condamné pour exaltation, je ne me souviens plus du terme juridique, de l'usage de la torture, et non pas pour la torture elle-même, montre l'ampleur de ce qu'était la crise morale de cette armée, sans compter la crise morale de cette société politique. Parce que on sait aujourd'hui que l'OAS avait des informateurs au sein du gouvernement français. C'est une chose qui est publique, qui a été su, qui a été imprimée. Georges Fleury, qui est un ancien de l'OAS, a écrit un livre dans lequel il affirme que Michel Poniatowski et Giscard d'Estaing étaient des gens qui étaient suffisamment en liaison avec l'OAS pour pouvoir donner des informations plus ou moins secrète, en tout cas jusqu'à un moment avancé de l'année 61, peut-être début 62, au moment où ces gens-là se sont aperçus que la cause était perdue. Mais jusqu'à fin 61,